Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue et merci de nous rejoindre chaque matin pour nous permettre de vous offrir 2 heures d'expertise afin de gérer au mieux votre argent et jours fériés ou pas. Il est coté, nous sommes là ce matin et on commence tout de suite par un survol de toute l'actualité avec Raphaël Coudert.
Et à la une, l'effort des industriels de l'agroalimentaire qui acceptent finalement de se remettre à la table des négociations. Objectif, faire baisser les prix des produits dans les rayons. Mais les industriels ne sont pas les seuls responsables de l'inflation alimentaire. Voilà ce que tient à rappeler Richard Ponquieu, le directeur général de l'ILEC, qui représente les marques de grande consommation. Écoutez. Richard Ponquieu, qu'on écoutera peut-être dans un instant. En attendant, dans l'aérien, la demande repart pour EasyJet. La compagnie britannique a réduit de 29% ses pertes sur les 6 derniers mois. Elle aborde maintenant l'été avec optimisme et s'attend à la poursuite de cette reprise des réservations. C'est une première aux États-Unis. Le Montana interdit complètement l'application TikTok. Le but, protéger les données personnelles des utilisateurs du Parti communiste chinois, indique le gouverneur républicain de cet État. C'est désormais certainement le début d'une bataille juridique à Washington où le Congrès envisage, lui, d'interdire TikTok au niveau fédéral. Sony envisage une scission de son activité de services financiers. Le conglomérat japonais estime que Sony Financial Group nécessite beaucoup de capital et qu'il est aujourd'hui difficile de trouver un équilibre avec ses autres investissements dans le divertissement et dans les appareils photo. Le groupe compte ensuite introduire cette division en bourse dans laquelle il conserverait une participation d'un peu moins de 20%. Et puis, le dernier jeu vidéo Zelda bat les records. Tears of the Kingdom a dépassé les 10 millions de ventes dans le monde en seulement 3 jours. C'est le meilleur démarrage pour un jeu Nintendo, toutes consoles confondues.
Merci beaucoup Raphaël. On vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment, à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, c'est l'heure de filer sur les marchés.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr. Votre rendez-vous avec Moneta Asset Management, notre savoir-faire action pour votre épargne depuis plus de 18 ans.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Allez, on file sur les marchés avec Antoine Larry-Gaudry pour prendre le pouls de cette première heure de cotation du vert. Mais finalement, les 7005 peuvent-ils être à portée de main ?
Déjà, on franchit un point important, à savoir qu'on a dépassé les 7450, qui était un point technique visiblement assez important. On les dépasse assez largement maintenant, avec 7466 points au compteur, une hausse de 0,91% et même une hausse d'1,3% pour le DAX à Francfort et plus 1% pour l'Eurostock 50. Donc c'est déjà un pas, effectivement. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à le tenir ? Faut pas oublier qu'on est sur le pont de l'ascension, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui seront pas là. Les volumes d'échange, d'ailleurs, sont encore faibles, 285 millions d'euros d'actions négociées à l'heure actuelle, mais il faut dire qu'ils ont été faibles toute la semaine et puis même depuis une dizaine de jours, alors que le marché ne fait pas grand-chose. Là, on a quand même une impulsion haussière quand même intéressante qui contraste avec l'indécision de ces derniers jours. Elle est due en majeure partie à la très belle clôture qu'on a eue du côté de Wall Street hier soir, avec des indices américains en hausse de plus d'1%. On sent que la classe politique est quand même en train de se mobiliser pour trouver à court terme maintenant une solution à la problématique du plafond de la dette. Et un accord pourrait peut-être même être trouvé ce week-end. En tout cas, c'est ce que semble penser laisser certains analystes du côté de Wall Street. En tout cas, du côté des marchés européens, la tendance est vraiment positive. Sur le CAC 40, la plus forte hausse, elle est pour ST Microelectronics qui gagne 2,25% à 40,62€. Derrière, on retrouve les valeurs bancaires qui sont bien orientées. Un plus 2,18 pour la Société Générale, on est à 23,01€. BNP Paribas, plus 1,98 à 56,79€. Et puis derrière, des valeurs un petit peu plus cycliques, un petit peu plus industrielles. On a Airbus qui gagne 2% à 130,86€, ou encore Saint-Gobain, plus 1,86 à 54,18€. À la baisse, on retrouve le cocktail assez habituel de valeurs défensives qui sont mises de côté. Engie, moins 0,1% à 14,72€. Orange, moins 0,12%, on est à 11,41€. Notez Carrefour qui recule de 0,7% à 17,94€. ArcelorMittal, moins 0,57 à 24,37€. Sur le SBF 120, la plus forte baisse, elle est pour Elior. Encore une séance difficile, hein, une baisse à deux chiffres hier. Plus forte baisse de l'indice large et le titre est à nouveau en queue de peloton. Moins 1,95, on est à 2,92. À noter dans la distribution, on parlait de Carrefour, on a Casino aussi qui est mal orienté à moins 1,7%, 6,67€. En revanche, à la hausse à deux chiffres pour Trigano, hein, vraiment carton plein pour le groupe qui gagne 10,12% en bourse. On est à 127,30€. À noter Air France KLM plus 4,35 à 1,68€. Et Euraseo gagne 2,36% à 62,95. Le CAC donc plus 0,95 maintenant et on se propulse à 7,400 169 points. Et oui, peut-être les 7500 à la clé, on va voir ça. L'euro faiblit encore contre dollar, on est à 1,0821.
Et on verra tout à l'heure avec nos traders hein, si ces 7500 points sont techniquement possibles. Rendez-vous est pris 10h30 avec le match des traders. Merci beaucoup Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext à La Défense. Nous, on reste sur ce monde action. On va explorer la côte parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Éric Lewin nous attend à la Bourse au quotidien. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Cédric.
Merci d'être au rendez-vous de ce jeudi de l'Ascension. Et vous nous proposez ce matin un éclairage sur Téléperformance.
Oui, écoutez, j'aurais bien aimé vous parler des small caps, mais franchement, le CAC small fait plus 3 depuis le début de l'année, alors que le CAC fait plus 15. Alors, Téléperformance, que se passe-t-il? C'est la plus forte baisse du CAC 40 depuis le début de l'année. Ça fait moins 30%, ça fait moins 50% en un an. Rappelons que le groupe avait pris la place de Sodexo en juin 2020 au sein du CAC 40. Alors, que se passe-t-il? Pour le leader mondial de la gestion de la relation client créée en 1978, il y a plusieurs éléments qui se conjuguent pour expliquer cette baisse. Vous rappelez, en novembre dernier, il y avait eu l'ouverture d'une enquête en Colombie pour violence des droits syndicaux, conditions de travail dégradantes. Et puis, début mai, il y a eu deux mauvais... Moi, je considère pas que ce sont des mauvaises nouvelles, mais le marché l'a pris comme ça. Il y a d'abord l'acquisition de Majorel, c'est un concurrent luxembourgeois spécialisé et essentiellement sur l'expérience client pour 3 milliards d'euros. C'est la plus importante opération du groupe. Pourtant, il y a des synergies entre 100 et 150 millions d'euros par an, mais ça a été mal interprété par les investisseurs. Et puis, il y a une petite déception là quand même sur le chiffre d'affaires qui a progressé simplement de 1,9% à 2 milliards d'euros sur le trimestre, alors qu'on en a un peu plus. Et puis les perspectives annuelles de croissance ont été abaissées entre 8 et 10% contre plus de 10%, ce qui fait que certains se sont dit, et si Téléperformance n'était plus une valeur de croissance. Pourtant, quand on regarde la rentabilité, on est quand même avec un très très beau groupe, puisque cette année, le groupe devrait faire 16% de rentabilité. À noter que le groupe est également bien placé pour profiter de ChatGPT, puisque le groupe a indiqué que ça permettait de réduire 40% du temps d'un appel avec 90% en moins de marge d'erreur. Bref, moi j'ai le sentiment quand même qu'on peut revenir pour jouer un rebond technique sur la valeur dans la mesure où ces ratios de valorisation sont extrêmement faibles pour une telle valeur. Quand on regarde la valeur d'entreprise rapportée à l'excédent brut d'exploitation, on est sur un niveau de 7. Quand on regarde le PER, on est sur un niveau de 10,5. Donc bon, le titre, je pense qu'on peut aller revoir les 200€ à condition que le marché reste bien évidemment bullish, parce que je pense que franchement là, mon cher Cédric, la valeur est survendue, elle perd quand même 50% en l'espace d'un an.
Ouais. Juste petite question plus générale, puisque vous entamiez votre propos par cette petite pique sur les petites et moyennes capis. On a de plus en plus d'experts, que ce soit des traders, que ce soit des gérants ou des stratèges, qui nous disent un petit peu, on sent un frémissement. Donc du côté des traders, c'est technique, de l'autre côté, ça l'est moins. Est-ce que vous avez l'impression que ce retard des mid-end small pourrait être peut-être pas comblé, mais en tout cas réduit. Est-ce qu'il peut y avoir un démarrage? Est-ce que c'est peut-être le moment de mettre quelques mid et small dans son scope pour éventuellement attraper une valeur avant qu'elle ne monte?
Bah écoutez, la grande problématique, c'est que oui, puisque quand on regarde les ratios de valorisation, les small caps sont environ décotés de 20% par rapport aux valeurs du CAC 40. Maintenant, mon cher Cédric, la grande problématique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités parce qu'il n'y a pas de flux entrant. C'est-à-dire que les sociétés de gestion spécialisées sur les small ont du mal à collecter. Donc oui, j'ai envie de vous dire, c'est le moment d'acheter des small. Il faut peut-être quand même attendre un peu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé, parce que c'est vrai que sans liquidité, on aura du mal à avoir une vraie hausse. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, sur 5 ans, je regardais ça ce matin, il y a quand même un écart de 50 points entre le CAC 40 et le CAC Small. Donc à un moment, cet écart va se réduire, et en plus, je finirai là-dessus, dans le monde du private equity, les boîtes valent 30% plus cher que dans le monde du côté. Donc il y a bien un moment où soit les industriels ou soit les fonds private equity vont venir sur ce compartiment des small caps, et il va y avoir des opérations en tout genre. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a quand même eu Limagrain, qui était certes la maison mère de Villemorin, mais qui a accepté de payer Villemorin avec une prime, je crois, entre 30 et 35% par rapport au dernier côté, parce qu'elle s'est rendue compte que sa filiale est en bourse et ça ne servait strictement à rien au vu de sa valorisation. Donc oui, moi je reste optimiste, mais il faut vraiment que la liquidité revienne sur le marché.
Merci beaucoup Eric. Eric Lewin, la bourse au quotidien et cet éclairage ce matin porté sur Téléperf. Recommandation d'achat, objectif de cours 210 €. Le marché, lui, est en hausse. Regarde-t-on, peut-on regarder vers les 7500 points? On posera d'ici une vingtaine de minutes la question à nos deux traders du jour.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et l'on rejoint Saxo Bank où nous attend Christopher Dembick. Bonjour Christopher.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, y compris en ce jour férié mes côtés. Et donc BFM Patrimoine répond à votre appel. Les incertitudes autour du plafond de la dette américaine restent très très fortes. On a vu qu'il y avait peut-être quelques envies de ne pas pousser le bouchon trop loin, mais il y a quand même ce chiffre qui tourne, 88 milliards. C'est ce qui resterait à Joe Biden pour terminer le mois. Comment voyez-vous les choses?
Alors, pas un gros sujet d'inquiétude, on est un peu comme l'ensemble du marché, comme vous l'avez plus ou moins mis en avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir, dans tous les cas, à l'arracher un accord. C'est vrai que ça va être très compliqué, et les prochains jours, les prochaines heures vont être assez tendues à cet égard, mais on est habitué à cela. Depuis l'an 2000, on a eu 20 relèvements du plafond de la dette. Souvenez-vous que c'était quand même très très compliqué aussi sous l'administration Obama, peut-être d'ailleurs beaucoup plus tendu entre les deux principaux partis.
Ouais, sauf qu'on n'avait pas un des deux qui appelait clairement ses partisans à provoquer un défaut.
Oui,
comme après, Trump l'a fait sur CNN, quoi.
C'est ça, exactement. Après, bon, à voir à quel point les élus républicains au Congrès vont suivre. Je doute que ce soit dans l'intérêt d'ailleurs de qui que ce soit. Simplement, il faudra faire certainement que les démocrates et la Maison Blanche fassent beaucoup plus de concessions qu'habituellement. Mais le marché semble pas trop réagir. Après, on voit qu'il y a quelques investisseurs qui essayent de se couvrir un peu. On a quelques éléments historiques lorsque on a eu notamment les États-Unis qui ont perdu leur AAA. Généralement, c'était plutôt le franc suisse qui en a profité. Donc, ça peut être éventuellement intéressant de regarder de ce côté-là en termes d'outils de couverture, mais encore une fois, je le rappelle, c'est peu probable qu'on aille jusqu'à la situation d'un défaut.
On sait qu'il y a quelques chiffres qui circulent, 6% notamment de baisse de PIB en cas de défaut. C'est tout sauf anodin, même un incident de crédit sur les États-Unis.
Bah alors oui, le sujet, si éventuellement on va dans cette direction, c'est-à-dire on a un défaut et il n'y a pas d'accord, le problème va probablement pas être tant la capacité de la Maison Blanche, donc du Trésor plutôt, de rembourser les créanciers étrangers, puisque dès 2013, finalement, le Trésor nous disait, lorsqu'il y avait aussi des mentions à cet égard, qu'ils avaient une sorte de mécanisme plan hors sec pour continuer de prioriser certains paiements, et parmi ces paiements qui seraient prioritisés, ce sont tout simplement les remboursements de la dette à l'égard des étrangers. En revanche, effectivement, le vrai sujet d'un défaut, c'est plus un sujet macroéconomique, donc quel va être l'impact en termes de perte de confiance, fuite des capitaux, etc. Et là, bien évidemment, peut-être même d'ailleurs ce scénario de 6% est peut-être d'une certaine manière optimiste, bien plus que financier, je voudrais dire. Donc c'est vraiment la question en termes de perte de confiance dans l'économie américaine. Là, ce serait un gros sujet.
Il y a d'autres préoccupations aussi dans ce monde économique, et notamment les questions chinoises. C'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on nous dit « Ah, effectivement, là, c'est encore difficile parce que la Chine est fermée, mais vous allez voir ce que vous allez voir, quand ça va rouvrir, tout ira mieux. » Et puis, ça a rouvert, on s'est dit « Tout va aller mieux. » Et puis, bah voilà, on constate les chiffres. C'était il y a quelques heures, mais il n'y a pas d'étincelle non plus. Comment est-ce que vous voyez tout cela évoluer? Quelles sont vos anticipations finalement pour ce cas chinois?
Alors, le cas chinois, effectivement, la grosse déception de l'année, parce que d'ailleurs, c'était un peu consensuel qu'on allait avoir une économie mondiale qui se porte très bien grâce à la Chine. Le problème, c'est que le seul moteur aujourd'hui de l'économie chinoise, ce sont les exportations, et pour une raison qui est très très simple. Et vous avez eu suffisamment d'échos dans la presse chinoise et de directives qui ont été données publiquement, à savoir qu'il faut que les gouvernements locaux aident les exportateurs. Concrètement, derrière ça, ça reflète quoi? Des subventions. On n'a pas un mécanisme économique vertueux qui est mis en place, notamment avec l'idéal, ce serait d'avoir finalement une hausse des importations chinoises qui reflèterait vraiment un bon dynamisme au niveau de la demande. Aujourd'hui, très clairement, les derniers chiffres, notamment au niveau des importations, étaient plutôt désastreux en termes de contraction. Donc ça reflète une consommation chinoise qui est toujours pas là. Alors, l'espoir, c'est de se dire que c'est peut-être juste une question de décalage. On était trop optimiste en début d'année, ça prendra plus de temps et ce serait plutôt deuxième partie d'année. Ça, c'est la vision aujourd'hui du consensus, c'est que la consommation chinoise, elle va rebondir en deuxième partie d'année. C'est aussi ma vision, mais je reste quand même prudent parce qu'on a été échaudé sur les derniers chiffres. Il n'y a rien qui nous indique qu'on a une impulsion qui soit très positive en termes de reprise. Et donc, bien sûr, s'il n'y a pas la Chine, même si la contribution à la croissance mondiale a été réduite du fait de la Covid, ça reste quand même un gros problème en termes d'anticipation. Et ça pourrait notamment, et on le voit, c'est un impact déjà extrêmement important sur le marché des matières premières.
Eh bien voilà quelques idées sur les grands thèmes qui font bouger les marchés aussi, que ce soit le plafond de la dette ou cette légère déception chinoise. Merci beaucoup Christopher Dembick, donc depuis Saxo Bank ce matin. Notre marché parisien, lui, il reste en hausse, on progresse de plus d'1%, 7 476 points avec sans doute les 7 500 en ligne de mire. On verra d'ici un petit quart d'heure ce qu'en disent nos traders.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Et on accueille Pierre-Alexandre Pillet, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Sowen, et on va parler ensemble de quartiers d'affaires. D'abord, quels sont ceux les plus attractifs aujourd'hui qu'on trouve en région parisienne?
Bon, historiquement, on a quand même le quartier central des affaires, qu'on appelle QCA, qui est le plus attractif aujourd'hui à Paris. Il y a un taux de vacances qui est extrêmement faible, donc ça montre son dynamisme, et on a toujours la Défense, qui est le plus grand centre d'affaires d'Europe, qui reste attractif, mais avec un taux de vacances beaucoup plus élevé, mais qui bénéficie du coup de belles opportunités immobilières.
Pour les entreprises, quels sont les avantages de s'installer dans un quartier d'affaires, comme on dit ?
En fait, ce qui a vraiment fondamentalement changé, c'est post-Covid. La mise en place du télétravail a été rendue quasi permanente dans toutes les entreprises. Et les entreprises ont cherché principalement à avoir un lieu qui était facile d'accès, à la fois pour les personnes externes, je dirais, qui viennent de régions ou de l'étranger, mais aussi pour les gens locaux. Donc du coup, naturellement, Paris est resté une forte demande. Et la Défense étant un hub de transport, ça a attiré naturellement toutes les entreprises qui étaient périphériques et qui ont eu des opportunités, du coup, de se recentrer sur un lieu de transport plus facile.
Ce sont ces transports, par exemple, qui sont à peu près le nœud du problème, on va dire, ou des avantages que certains préfèrent le quartier central ou justement des hubs comme.
Oui, en fait, c'est que.
Plus périphérique, mais peut-être aussi bien desservi.
Alors, il y a les transports qui est un des facteurs fondamentaux, je dirais, de ce besoin, mais il y a l'image. Et post-Covid, encore une fois, les entreprises ont souhaité rechercher des endroits qui étaient attractifs pour les collaborateurs, à la fois en termes de géographique, mais à la fois en termes d'image. Et ces entreprises vont chercher des immeubles qui sont performants, qui sont attractifs, avec des services. Et la Défense tire son épingle du jeu aujourd'hui avec des immeubles rénovés, restructurés, bénéficiant de services, de vues et d'accès transport importants. Mais Paris, aujourd'hui, a un taux de vacances qui est inférieur à 2%, ce qui est extrêmement faible. Reste attractif parce que l'image d'une entreprise parisienne permet à des entreprises qui ont du mal à recruter ou de faire venir des talents.
Et dans ces cas-là, on privilégie plutôt les quartiers centraux. Si on prend un regard un petit peu plus large, comment est-ce que cet immobilier professionnel se porte-t-il aujourd'hui ?
Alors, on a connu une année 2022 extrêmement performante. 2023, le premier trimestre est plutôt en deçà des attentes, avec un rattrapage qui devrait se faire sur le deuxième trimestre. Quoi qu'il en soit, il reste très dynamique. On sent que les entreprises ont envie de bouger, ont envie d'aller dans ces quartiers centraux d'affaires. On n'a pas vraiment de perspective extrêmement fiable sur 2024. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les entreprises vont souhaiter avoir un siège social plus petit, parce que l'impact télétravail a généré ça. Mmh. C'est-à-dire que mécaniquement, je baisse ma surface. Par contre, je vais aller dans le centre de Paris ou à la Défense. Et si je vais dans le centre de Paris, on voit aujourd'hui des valeurs qui dépassent les 1 000 euros du mètre carré, ce qui n'a jamais été dépassé auparavant. Donc, ça montre ce fort taux d'attractivité.
Vous avez rapidement évoqué tout à l'heure les immeubles restructurés, remis au goût du jour. Ça rime nécessairement aussi un petit peu avec des questions environnementales. Ces quartiers d'affaires, comment les faire comment concilier une forte démarche environnementale, quasiment, j'allais dire, de l'impact.
Ce qui est certain, c'est que les chefs d'entreprise ou les entreprises d'une manière générale vont rechercher aujourd'hui des immeubles neufs ou restructurés, à la fois pour le côté image, mais aussi pour la démarche environnementale que cela génère. On a vu les augmentations de coûts de l'énergie, et du coup, un immeuble qui a un label environnemental va avoir une consommation énergétique plus faible. Donc ça, c'est vraiment recherché à la fois pour ce côté économique du côté environnemental, mais également pour le côté image de l'entreprise, puisque toutes les démarches RSE des entreprises sont vraiment scrutées de près par les salariés.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie valeur verte. On l'a souvent guetté dans le paysage immobilier de logement, et on voyait bien que dans les quartiers tendus, en fait, c'était pas tout à fait le cas. Dans ce milieu professionnel, il y a une vraie valeur verte qui est aujourd'hui reconnue et acceptée.
Il y a une vraie valeur verte. C'est un objectif, et je dirais même que les immeubles qui ne basculent pas aujourd'hui dans cette démarche vont rester sur le marché évidemment beaucoup plus longtemps que les autres, et avec un risque à long terme de ne pas trouver de preneur.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de nouveaux immeubles. Enfin, quels sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu finalement ?
Alors, ce sont les immeubles principalement de service qui tirent leur épingle du jeu. Encore une fois, avec cet objectif qui est post-Covid, qui est que quand je suis salarié, je viens au bureau pour collaborer avec mes collègues. Et ça, c'est une valeur forte qui a été amplifiée post-Covid, dans le sens où je peux travailler de chez moi, faire un certain nombre de tâches qui sont individuelles. Mais quand je viens au bureau, c'est pour collaborer. Et donc, du coup, je veux avoir des services qui vont autour de cette collaboration.
Ça passe par quoi ?
Ça passe par, des salles de réunion connectées. Ça passe par des services dans l'immeuble qui sont la conciergerie. Ça passe par des restaurants d'entreprise qui sont un petit peu différents. Maintenant, qui sont plutôt, on voit des restaurants d'affaires qui arrivent dans certains immeubles. On voit des restaurants avec différentes solutions de restauration, à la fois connectées ou non connectées. Et c'est fondamental aujourd'hui dans les immeubles pour apporter un service complémentaire qu'on n'avait pas, et venir, attirer les collaborateurs au bureau, puisque c'est un des enjeux de faire revenir les collaborateurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus de l'immense open space et de l'espèce de cafette où on va avec son plateau sur des rails, quoi.
Oui, c'est-à-dire que l'open space fait peur, le flex office fait encore plus peur, mais au milieu de tout ça, on a quand même des notions d'aménagement qui sont extrêmement performantes, avec des espaces qui restent ouverts, mais extrêmement dynamiques, extrêmement connectés, qui vont dans le sens de la collaboration et, je dirais, presque de la festivité. C'est-à-dire que quand on vient au bureau, c'est pour, encore une fois, collaborer, passer des bons moments et avoir ce côté un peu event qui est nécessaire, je dirais, à l'entreprise pour conserver un peu cette dynamique.
Tout à l'heure, vous nous avez dit tout ce qu'on observe nous fait dire que les entreprises ont envie de bouger, Pourquoi est-ce que les entreprises ont envie de déménager, de bouger, de changer d'air ?
Alors, elles ont.
C'est juste pour des questions, on va dire bassement concrètes de loyer. C'est juste pour baisser le poste.
Non. Encore une fois, l'élément déclencheur a été assez simple. Hein, c'est post-Covid, j'ai mis en place du télétravail ou du flex-office parce que les gens viennent moins régulièrement au bureau, et puis j'ai trouvé cet équilibre vie perso, vie pro qui fonctionne. Donc du coup, mécaniquement, j'ai besoin moins de mètres carrés. En revanche, j'ai besoin d'avoir un lieu qui soit un lieu unique à mon image et qui garde mes talents et qui arrive à faire venir aussi les bonnes personnes au sein de mon entreprise. Donc du coup, ces entreprises-là qui étaient depuis peut-être une dizaine d'années dans des locaux un peu plus lointains ou mal adaptés, et bah du coup enclenchent cette dynamique de déménagement ou de réaménagement de leur espace mécaniquement, et ce qui fait que le secteur est assez soutenu actuellement.
Donc ça veut dire que quand on est un investisseur et qu'on veut s'intéresser à cet immobilier de bureau, à cet immobilier professionnel, il faut nécessairement avoir toutes ces considérations en ligne de mire pour soit investir dans le bon bâtiment, soit être capable d'arbitrer son portefeuille ou rénover son portefeuille. C'est quelque chose qui doit remonter, infuser dans l'ensemble de la,
oui,
de la colonne.
C'est fondamental. Quand on est investisseur, il faut se poser la question d'un immeuble qui est un peu lointain, comment je l'arbitre ou comment je revalorise cet actif, parce que potentiellement je ne trouverai pas de preneur. S'il est bien placé et qu'il y a une bonne attractivité, je dois certainement passer un cap en revalorisant mon actif et en passant sur des démarches environnementales fortes et apporter du service. Donc évidemment, quand on est investisseur en immobilier d'entreprise, de bureau, espace tertiaire, on doit avoir bien connaître ce marché-là et avoir ça en ligne de mire pour revaloriser correctement son actif.
Juste pour terminer, on a beaucoup parlé de Paris, beaucoup parlé de la Défense. Est-ce que ces transferts sont les mêmes dans nos métropoles régionales ou entre métropoles régionales? Est-ce que, par exemple, pour avoir mieux et moins, enfin, on peut, une entreprise, se dire, bah tiens, je vais filer dans une métropole régionale, parce qu'en plus, j'offrirais, pour garder, comme vous dites, mes collaborateurs, je leur offrirais peut-être la possibilité d'avoir un cadre vie plus agréable, une plus grande maison, un plus grand appartement, un jardin, enfin bon, bref.
Alors,
est-ce que ce genre de réflexion passe
sur la région, j'ai un peu moins de connaissances. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce qui se passe actuellement sur Paris avec cette démarche d'avoir un immeuble à image centrale et avec une démarche environnementale, est en train de basculer sur les régions également, parce que c'est une valeur de fond et que les actifs qui sont un peu âgés en région devront également se repositionner avec ces différents éléments.
Il n'y aura pas d'exception.
Il n'y aura pas d'exception, peut-être un laps de temps différent.
Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Pour Sowen Pierre-Alexandre Pillet, pour ce monde donc de l'immobilier d'entreprise et des quartiers d'affaires. À très bientôt.
Merci.
Dans un instant, on filera sur les marchés pour regarder techniquement ce qu'il faut attendre de cette séance jour férié mes côtés et de ce CAC 40 qui pourrait peut-être rallier les 7500 points. On pose la question dans un instant à nos traders. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Vous le savez, si vous nous êtes fidèles, chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui vous ouvrent leurs écrans et vous permettent de lire graphiquement la séance du jour. Et aujourd'hui, jour férié, mes côtés, eh bien, peut-être est-ce la faiblesse des volumes qui permet à l'indice de rêver des 7500 points. En tout cas, on va poser la question graphique, technique sur ces niveaux à nos deux traders du jour. Jean-Louis Cussac, que l'on aperçoit depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis, et en ligne avec nous depuis IG, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Que peut-on penser de cette séance du jour? Est-ce que les volumes et leurs faiblesses potentielles forgent un petit peu la tendance, ou est-ce qu'on peut sérieusement rêver des 7500 points, Alexandre?
À mon avis, c'est pas que les volumes. Il y a quand même une notion de d'actualité. On a vu hier un discours qui était assez attendu, alors qu'il n'y a pas délivré autant qu'on pouvait le penser, mais qui a quand même plu au marché. Le discours de l'intervention de Joe Biden par rapport au plafond de la dette, expliquant qu'en gros, il n'y aurait pas de défaut des États-Unis, que ce serait une catastrophe, que, en gros, toutes les parties vont trouver une solution. Donc, c'est un discours assez court, mais qui a plu au marché américain, et dans la foulée, qui plaît aussi au marché européen. Donc, selon moi, c'est moins une question de volume que d'actualité. Après, on n'a pas vraiment changé de pattern, c'est-à-dire de configuration sur le CAC 40 depuis déjà plusieurs jours, même semaines maintenant, à savoir que les 7006, c'est la zone, pour moi en tout cas, qu'il faut au moins retaper pour commencer à rêver effectivement d'un 8000 derrière, et donc commencer à reparler d'un momentum haussier ils se remettent réellement en route, parce que pour l'instant, on se contente d'évoluer depuis déjà plusieurs jours entre 7006 et 7003. Et hier matin, on est allé chercher la zone quasiment des 7350. Donc pour moi, il y a toujours d'un point de vue technique, c'est un analyse qu'il faut réaliser d'un point de vue très technique en fait. On n'a pas de signaux d'un côté ou de l'autre. Le signal dangereux qu'il ne faudrait pas avoir dans les heures ou les jours qui viennent, c'est 7350. Là, clairement, 7350, pour moi, on va chercher sous les 7002 assez rapidement. Donc il y a 150 à 200 points de baisse derrière. Et pour s'enthousiasmer effectivement du peut-être d'un redémarrage des démarches américains avec le SP500, le Dow Jones et autres, il faut que le CAC 40 aille taper les 7006. Donc pour moi, on est dans une zone toujours un peu de prudence et pour moi une zone un peu d'inaction, j'ai envie de dire d'indécision, parce que justement il n'y a pas de signaux très francs. Sur l'aspect purement macro, on a vu que dans la stat de la Chine, par exemple, et pour qu'on parle de la Chine, parce que le CAC 40 a de très nombreux groupes qui ont d'entreprises et donc d'investisseurs qui sont exposés à la Chine, et l'énorme rallye qu'on a depuis novembre, en trois vagues successives, s'est fait en très grande partie sur la réouverture de la Chine. Or, on voit quoi ? On voit qu'après le boost du premier trimestre de la réouverture, les stats qu'on a plus récemment sont très très mitigées. Elles sont toutes en dessous des attentes, absolument toutes. Il n'y a pas une stat qui tombe au-dessus du consensus. Ça veut donc dire que le consensus est trop optimiste. Et donc, si le consensus macro est trop optimiste, est-ce que le consensus micro, donc là je pense aux guidances pour le T2, est-ce que le consensus micro n'est pas aussi trop optimiste sur le potentiel de la Chine? On commence à parler d'un éventuel soutien de la Banque centrale ou des autorités sur la consommation chinoise. Donc moi j'ai un petit doute, si vous voulez, par rapport à ça, sur cette macro qui est pas extraordinaire. Et donc voilà, j'attends les signaux techniques. Donc pour moi, tant qu'on est sous 7006, c'est pas encore un call franc et affirmé. Et sans aucune hésitation, si on redescend à 7350, je pense qu'il y aura une vague de faiblesse qui peut amener le marché 200 à 300 points plus bas.
Voilà la lecture proposée par Alexandre Baradez. Jean-Louis Cussac, que peut-on se dire? Voilà, jour férié, mes côtés souvent propices peut-être à des mouvements de marché un petit peu plus erratiques. Comment est-ce qu'on voit les choses et est-ce qu'on peut rêver de façon crédible des 7005?
Alors oui, hein, c'est à portée de la main. Et le marché reste haussier, c'est ce que je vous dis chaque jour. Pour l'instant, la priorité, c'est d'abord, long terme, on est toujours acheteur. Et en intraday, dans la journée, bah écoutez, quand on a des retracements, on essaye de se placer à l'achat pour jouer des écarts sur l'indice CAC 40, comme on a pu le faire ces derniers jours, sans aucun souci. Alors, ce matin, on a ouvert avec un gap à la hausse. Le gap à la hausse a plusieurs conséquences. Pression sur les vendeurs à découvert, mais également, le matin, quand on ouvre comme ça, il y a des ajustements de delta, c'est-à-dire qu'ils viennent payer... Ils viennent se désensibiliser sur des ventes de call, donc ils viennent acheter des futurs, des indices, enfin des actions. Et par exemple, à partir de 9h, le marché s'est envolé, il a gagné 0,73%. Pendant ce temps-là, le DAX a gagné 1,29%. Et ajusté des dividendes récents, hein, je ne parle pas des dividendes il y a 10 ans, mais de cette période-là de quelques semaines, on est à 0,58% du plus haut historique. Donc, évidemment, même ce plus haut historique-là, il est à portée de la main. Voilà, on est à la veille de l'échéance, on a des considérations techniques qui sont importantes, gap, pression, l'ambiance, en effet, comme l'a expliqué Alexandre, bah, c'est un peu détendu avec les discours de Biden, etc. Et l'idée, c'est que les discussions entre les démocrates et les républicains vont aboutir. Ça va dans le bon sens. Alors Biden va partir au G7, alors ça va retarder un peu, hein, ça va pas se faire immédiatement, mais ça va bien se passer, c'est ce que le marché pense. Et les marchés progressent sur quoi? Ben, ils se réjouissent sur des problèmes qui vont peut-être trouver des solutions. Mais nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est du positif, c'est-à-dire vraiment des choses extrêmement qui font avancer, pas simplement résoudre les problèmes. Mais le marché se contente de tout ce qu'il a et ça suffit pour faire progresser les indices. Voilà, on a vraiment STM qui monte bien, etc. Sur le CAC 40, il y a une hyper régularité, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de paniers. Le volume est faible, mais il est supérieur au jour précédent, Cédric. Rappelez-vous, hier, on était à cette heure-là à 350, on a ouais. Même fait 280, et là, on est à 380, enfin, à 400 millions, on va dire. Donc, ces 400 millions, c'est du volume aussi dopé par les arbitrages. Voilà. Donc, on reste bien, il n'y a rien de nouveau, sauf que l'espoir sur la dette et sa résolution augmente aujourd'hui.
Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez étaient nos deux traders du jour. On se retrouve tout à l'heure, hein, Jean-Louis. On verra à 11h30 si on s'approche encore un peu plus de ces 7500 points. Pour le moment, l'indice CAC 40 grimpe de 0,97%, 7471 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et c'est Stéphane Pedrazzi qui nous accompagne ce matin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
La réouverture des négociations commerciales, des renégociations, pourrait-on dire même, entre producteurs et distributeurs. Est-ce qu'on peut vraiment espérer des baisses de prix dans les rayons?
Alors Michel-Édouard Leclerc a été très clair hier soir sur BFM TV. Il n'y aura pas de baisse générale des prix dans les rayons des magasins. Il y aura seulement des promotions, selon lui. Il a aussi prévenu que les fruits et légumes allaient rester particulièrement chers parce que Leclerc a fait le choix de ne pas toucher au monde agricole. Choix politique et il l'assume. Malgré tout, Leclerc confirme que son groupe est en mode combat pour aller chercher des baisses de prix lorsque c'est possible. Alors, il a quand même pas mal d'arguments. Objectivement, le cours du blé a baissé de 30% en un an, le prix du colza a baissé de 45%, le prix du verre a chuté de 16%, et puis pour le transport également, il y a eu des baisses de prix significatives. Le prix d'un conteneur maritime a été divisé par 7 depuis la crise sanitaire. Donc, tout cela devrait évidemment permettre aux industriels de baisser leurs prix pour les distributeurs.
Sauf que les industriels préviennent également qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Oui, alors eux, ils ont aussi des arguments. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les prix dont je viens de parler sont des cours spot à l'instant T et que les industriels, ils n'ont pas forcément encore bénéficié de toutes ces baisses de prix. On prend un exemple. Si vous êtes un boulanger ou un fabricant de biscuits, vous avez un stock de farine et vous l'avez acheté il y a plusieurs mois, à l'ancien tarif. Et donc, il faudra attendre quelques mois pour avoir la baisse de tarif et pouvoir la répercuter. Ensuite, il y a des coûts qui n'ont pas diminué. Hier matin, dans Les Experts, je recevais le patron de Kousmiti. Il m'a expliqué que sa facture d'électricité avait été multipliée par 4 par rapport à l'an dernier et qu'il était engagé sur ce tarif pour une durée de 2 ans, même si, par ailleurs, le prix de gros de l'électricité a baissé. Donc, pour lui, ce sera impossible, en tout cas dans l'immédiat, de revenir au prix de l'an dernier. Et puis, il y a aussi un certain nombre de matières premières qui restent sous pression. Sans jeu de mots, par exemple, les producteurs de jus d'orange n'arrivent pas à se procurer du concentré parce qu'on manque d'orange au niveau mondial. Du coup, le prix du concentré a augmenté de 30%. Et donc, ça n'est pas une catégorie de produits où les prix vont baisser dans les rayons des supermarchés.
Bon, il y a aussi des règles hein, qui ont été fixées pour la réouverture de ces négociations et qui sont assez restrictive.
Oui, alors comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le gouvernement réclame des baisses de prix, mais a fixé des règles. Ce sont d'abord ceux qui avaient augmenté leurs tarifs de plus de 10% lors des précédentes négociations commerciales, et ensuite ceux qui ont enregistré une augmentation du prix de l'un, une baisse pardon de prix de leurs ingrédients, de l'un de leurs ingrédients, d'au moins 20% depuis le 1er mars. Quand vous mettez les deux critères ensemble, ça fait finalement assez peu de groupes qui sont concernés, et donc la pression du gouvernement, elle est quand même, on va le reconnaître, assez modeste.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des industriels qui pourraient tenter de profiter finalement de la situation?
Et ça, c'est la grande question. Effectivement, certaines marques sont tellement puissantes qu'elles sont pratiquement devenues incontournables. Coca-Cola, Nutella, c'est pratiquement impossible pour un distributeur aujourd'hui de déréférencer ces marques, sinon les clients risquent d'aller voir à la concurrence. Mais il y a quand même le jeu, justement, de la concurrence qui va peser sur ces marques. Parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer, les grandes marques nationales, comme on les appelle, elles perdent des parts de marché au profit des MDD, les marques de distributeurs, et c'est quand même quelque chose qui, tôt ou tard, va provoquer un rééquilibrage du marché. C'est ce que disent certains experts. Il valait mieux laisser la concurrence faire son effet plutôt que de relancer les négociations entre producteurs et distributeurs.
Stéphane Pedrazzi, merci beaucoup Stéphane. Le marché parisien, quasiment 1% de hausse, 7471 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Georges Delataille. Bonjour Georges.
Bonjour Cédric.
Directeur associé d'ActuCite, régulièrement à nos côtés pour regarder vivre ce monde de la gestion de patrimoine dans ce monde digital. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux avis, aux commentaires qu'on trouve sur Internet et comment ne pas les subir.
Exactement, les avis, il y en a partout. On va au restaurant, on va dans un hôtel, on met des avis, on met aussi beaucoup...
J'ai tout bib, on va...
Un tout petit peu, moi je mets ça, mais aussi pas mal. Vous avez raison. Et dans le monde de la gestion de patrimoine, il y a aussi beaucoup d'avis. Un assureur, un CGP, même un notaire, un courtier. On met des avis dessus. On peut en mettre sur Google, il y a plein d'autres sites, il y a les pages jaunes, le bon coin, GoWork, mais on va surtout parler de Google, parce que Google, vous devez le savoir par cœur, c'est 90% des recherches en France, donc quasiment tout se passe sur Google. Et sur Google, on peut laisser des avis sur les sociétés. Chose très importante, ces avis, ils sont énormément vus. On a fait un petit test chez ActuCite, et c'est un chiffre qui donc est validé par pas mal d'experts. En gros, notre fiche Google Ben Business, notre fiche Google, est 30 fois plus vue que le site web d'ActuCite. Donc, ouais, ces fameux avis sont 30 fois plus vus, donc, a priori, il faut ne pas les négliger.
Bon, mais vus, ok, mais est-ce qu'ils sont utiles ?
Ils sont plus qu'utiles, ils sont clés. Pareil, quand on regarde les chiffres, il y a une étude de l'IFOP qui dit que 87% des Français lisent les avis avant de faire appel à un professionnel au sens large. En plus de ça, 45% disent même que c'est leur source d'information privilégiée, c'est vraiment l'information qu'ils regardent, c'est plus le bouche à oreille, c'est plus le conseil d'un ami, c'est plus le guide du routard, la presse, même si la presse est encore très écoutée, c'est vraiment les avis Google. Donc en 2023, quelle que soit la taille de votre société, que vous soyez un petit indépendant tout seul dans votre région ou un énorme assureur présent mondialement, vous ne pouvez pas passer à côté des avis.
Bon, mais si on n'a pas envie de s'exposer aux avis, on va dire, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement ne pas être présent ou demander à Google de supprimer notre fiche ?
Alors, c'est une excellente idée, il y en a plein qui l'ont essayé. Malheureusement, en tout cas sur Google, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Il y en a qui ont attaqué Google en justice, qui ont dit, écoutez, voilà, monsieur le juge, je ne souhaite plus avoir de fiche Google My Business. La justice a... Enfin, il y a eu un procès, et la réponse est sans appel. Elle a déterminé que la démarche de Google est légitime dès lors que le professionnel dispose de moyens d'accès contre d'éventuelles dérives. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le professionnel peut signaler tout avis qui lui semble inapproprié. La suppression de la fiche est donc impossible parce qu'elle contreviendrait à la liberté d'expression qui est absolument clé en France. Les juges considèrent donc que Google My Business est un service d'information sans aucune vocation commerciale, donc vous ne pouvez pas supprimer votre fiche.
Bon, donc on peut pas y couper. Je suis désolé, Georges, mais généralement, quand vous mettez en avant un point comme ça, vous apportez aussi un peu de solution, un peu d'expertise. Là, il n'y a rien à faire. On peut pas gérer sa fiche, maîtriser les avis.
Alors, il faut se dire que finalement, c'est un peu comme n'importe quelle relation client. Vous récupérez des retours clients, un email, un commentaire par oral, un SMS, je sais pas quoi. Vous allez y répondre, vous allez prendre compte. Les avis, c'est pareil. Vous avez des avis, bah, regardez-les, répondez-les. Et malheureusement, ça fait mal à entendre, mais si on a plusieurs fois un avis négatif sur un même sujet, c'est probablement qu'il y a une part de vrai, une part de vérité. Donc, n'oubliez pas, faites-le et vraiment traitez ces avis comme quelqu'un qui vous avait échangé et répondez.
Ouais, l'idée ce serait d'avoir plus d'avis positifs que d'avis négatifs en fait.
Exactement, comme souvent, on revient au béaba, on revient en source. Finalement, le nerf de la guerre c'est quoi ? C'est de se dire, si j'ai 100 avis, que j'en ai 4 négatifs, on va dire 70 très positifs et les 26 restants moyens, c'est pas mal. Si j'ai que des avis négatifs, c'est moyen. Donc, ça veut dire quoi ? Faites bien votre boulot, ouais, travaillez bien, et dès que vous échangez avec un client, suggérez-lui de laisser un avis. Pour l'anecdote, vous allez voir à mes cheveux, j'ai les cheveux assez courts, j'ai été chez le coiffeur, et même chez le coiffeur, sur la glace devant moi, il y avait un sticker « Laissez-nous un avis ». Donc vraiment, tout le monde le fait. Donc dès que vous avez quelqu'un, que vous échangez, que ça vient, demandez un avis.
Bon, donc c'est une façon aussi de bien ressortir. Quels sont les autres ?
Oui, alors le reste, on avait déjà occasion de parler dans une chronique que j'invite les internautes à regarder, mais rapidement, une fiche Google My Business, si on parle de Google, c'est bien sûr les avis, mais c'est ensuite un certain nombre d'informations qui doivent être bien remplies dessus, parce que Google, son souhait, c'est quoi ? C'est de sortir de l'information de qualité à la personne qui cherche. Donc c'est bien mettre vos coordonnées, bien mettre vos horaires d'ouverture. Aujourd'hui, qui est un jour particulier, qui est un jour férié, on peut ouvrir plus tôt, ouvrir plus tard, bah, mettez les informations. Indiquez bien comment on accède à vos bureaux, mettez de l'information sur cette fiche. Par exemple, moi, je vais publier sur la fiche Google My Business cette chronique pour vraiment montrer à Google que ça bouge. Et l'autre chose importante, faites attention à ce que l'information qui est sur cette fiche soit la même que sur votre site internet, mais soit aussi la même que sur d'autres annuaires, indicateurs qu'il peut y avoir en ligne pour que vraiment Google se dise, tiens, cette information, c'est bien la bonne parce que c'est partout la même.
Ça veut dire qu'il faut gérer cette fiche pour avoir toujours une information à jour, une information fraîche, enfin, sans pas se dire, tiens, ça fait deux mois que ça n'a pas bougé.
Sans hésiter, c'est vraiment un boulot, pas au jour le jour, mais on va dire à la semaine ou le mois, il faut régulièrement faire vivre la fiche pour que la fiche ait de la fraîcheur de la donnée, que la donnée soit intéressante, elle soit à jour, et c'est vraiment le meilleur moyen pour vous d'avoir une fiche qui ressorte bien, et n'oubliez pas, en parallèle, de collecter des avis, et bien sûr des avis positifs.
Georges Delataille, ActuCite, qui nous accompagne très régulièrement. Merci Georges d'être venu, y compris en ce jour férié.
Merci Cédric.
Mes côtés, on était au rendez-vous. Tout de suite, un coup d'œil sur les marchés.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Ce CAC qui regarde vers le haut et vers les 7500 points. Pour le moment, on gagne quasiment 1%, 7466 points. On grimpe d'ailleurs un peu partout en Europe. Les principales fluctuations à la hausse du ST Micro, du SocGen et du BNPP. Et puis, Carrefour, Engie et Orange sont les trois seules baisses de l'indice CAC ce matin. L'eurodoll est à 1,0820.